c'est juste pour l'enregistrement, pour que ce soit bien calé. Jusqu'à mercredi, je savais à peu près de quoi serait fait la prédication de ce matin. Donc je m'étais pris un petit peu à l'avance et j'avais déjà bien commencé à travailler sur un thème qui s'appelait l'esprit de la croix. C'est pas un thème facile. Et puis, mercredi soir, au cours de la réunion avec Porte Ouverte sur le thème « La Bible est-elle un livre dangereux ?» Le vent a tourné. Et puis, et l'autre inspiration, un autre thème s'est imposé. Donc, je vais vous laisser le découvrir. Je ne vais pas déjà tout vous dire. Ce matin, on prend un texte ensemble dans l'évangile de Matthieu, mais bon, je pense que vous comprendrez assez vite ce dont il est question dans Matthieu au chapitre 4, les versets 2 à 4. Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours, et 40 nuits, il eut faim. Donc il s'agit du Christ Jésus. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. » de Dieu. On l'a vu mercredi soir, la difficulté que c'est pour tellement de personnes dans le monde d'avoir simplement une portion de la Bible. De là, avoir une Bible tout entière dans sa langue, c'est compliqué. Si je fais le compte de toutes les Bibles que j'ai à la maison, je pourrais presque en donner une à chacun dans l'église. On a tout de suite de richesse, tellement de versions différentes. Y compris dans les langues originelles, je crois que je dois avoir deux Bibles interlinéaires en hébreu, en grec, etc., avec tous les outils qui vont avec, donc nous avons une richesse. Mais l'interrogation, mercredi soir, et celle de Jean-Marc ce matin, c'était, mais est-ce que cette loi, est-ce que cette parole, elle est à l'intérieur? On a vu, est-ce qu'elle est sur l'étagère avec une bonne couche de poussière, donc il faut déjà acheter un aspirateur, hein, et puis un chiffon, et puis la sortir, et puis avaler toute la poussière. Que faisons-nous de cette parole? J'ai été à nouveau marqué mercredi soir par ce représentant de Porte Ouverte qui disait, simplement pour lire l'écriture sur un an, est-ce que vous avez une idée de la portion qu'il faut en lire tous les jours? C'est déjà assez conséquent. Si tous les jours on vous servait une côte de bœuf, la première ça passe, la deuxième, la troisième, c'est un défi. Quand on était étudiant au collège biblique, le défi, voilà, c'était d'avaler la parole de Dieu le plus possible, et puis je crois qu'à un moment donné, je devais être rendu à 5 ou à 8 chapitres par jour, et puis il y a un jour où on rate, un deuxième, un troisième, et puis à la fin, on se retrouve avec... Et puis à un moment donné, on s'aperçoit que c'est pas facile. C'est un défi de lire l'écriture sur un an. Il peut y avoir toutes sortes de méthodes. Pendant un temps, je lisais un texte dans le Pentateuque, un texte dans les livres historiques, un texte dans les prophètes, un texte dans les psaumes, un texte des proverbes, un texte des évangiles, un texte des épîtres. Et puis j'avais toute ma liste, et puis à la fin, j'essayais tous les systèmes. Celui que j'ai préféré, c'est de lire ma Bible avec des crayons de couleur, et puis d'avoir un code couleur, puis de vraiment de prendre le temps de décortiquer, de lire pour le plaisir et de souligner, je veux dire, de mettre en vert tout ce qui peut soutenir la vie intérieure. C'était tellement extraordinaire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Peut-être qu'on se demande parfois comment est-ce que je peux renforcer, comment est-ce que Dieu peut communiquer avec moi. Il le fait par l'Esprit Saint qui rend vivant les choses, mais il le fait surtout au travers de l'Écriture. Avoir cette parole au-dedans, ça crée un autre état d'esprit, un autre réflexe dans la vie. Ça permet de court-circuiter, parfois et souvent, le vieil homme qui aimerait réagir tellement vite. Et l'Écriture peut dire, hop là, qu'est-ce que Jésus dirait à ma place ou dans cette situation-là, et de pouvoir avoir une autre réaction. On va à l'origine de cet écrit, on peut lire dans Deutéronome, au chapitre 8. Cette parole avait au préalable été adressée à Israël. Deutéronome 8, les versets 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays, que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, afin que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est un texte qui a déjà quelques millénaires et qui est toujours actuel. Avoir la faim, la soif de Dieu, se souvenir de toutes les expériences passées, être prêt à obéir à Dieu, et je rajoute de manière inconditionnelle. Je crois que c'est Jean-Marc qui dit souvent « oui, mais ». La parole de Dieu s'adresse à nous, puis « oui, mais Seigneur, si tu savais, si tu savais pas, je te l'apprends. » Qu'est-ce qui peut rendre difficile dans nos vies d'observer simplement ce commandement, d'être simplement dans l'écoute de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Elle peut sortir directement dans notre esprit par l'inspiration, elle peut être donnée dans l'Église par l'inspiration prophétique. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand cette parole nous parle directement. J'ai besoin, nous avons besoin d'une parole de Dieu directe. Je ne sais pas si vous aimez le pain. Le pain rassis? Non, ça marche moins bien. Le pain congelé? Il faut le décongeler. Quel est notre rapport avec l'Écriture? Est-ce que je peux avoir ma ration de pain? Parole fraîche, cuite du matin. C'est toute la différence. Hein. En France, on dit toujours être nourri au pain sec et à l'eau. Est-ce que la parole est pour moi du pain sec? Ou est-ce que c'est un pain multicéréales? Tous les matins, je me réjouis de manger du pain frais, aux céréales avec de la confiture. Ce sont des images. Mais voilà, je vous laisse imaginer là aussi si on devait se nourrir de vieux pain. Dans le temps, il y avait des huches à pain dans la cuisine, et puis on mettait un linge autour. Puis au fur et à mesure des jours, bon, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'en Bretagne, dans la soupe, je me rappelle quand j'étais petit, tous les dimanches soirs, ma mère faisait de la soupe au lait salée. Et puis dedans, on coupait des tranches de pain noir, de pain de seigle. Bon, c'est moyen. Je vous laisse avec cette image du rapport au pain frais. Nous sommes dans un environnement matérialiste, consumériste. Quelle est notre fin de nourriture terrestre, physique? Est-ce suffisant? Est-ce important? Je suis toujours effaré quand on annonce la vente du nouvel iPhone. Je crois qu'on est rendu au numéro 7. Les gens, la veille, avec leur sac de couchage, ils font la queue devant le magasin. Certains sont accros. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Puis j'ai lu que c'est une image. Hein. Peut-être que vous avez le numéro 7. Je ne vous en veux pas. Je ne dis pas que c'est... Je remarque qu'il regarde le numéro. En ce moment, ce qui est en vogue, c'est le 5C, c'est ça? Peu importe. Mais juste là aussi, c'est une image. Hein, dans notre consommation, c'est quoi la consommation? Peut-être que vous avez l'iPhone 7 avec une version de la Bible dessus. Dans beaucoup d'églises, maintenant, chacun a sa tablette, son iPhone, et puis au lieu d'avoir sa Bible, on regarde le texte sur un média moderne. Quand on était à Créteil, dans l'église de Laetitia, il y a quelques mois, j'étais marqué avec le nombre de gens qui avaient ces grands smartphones, et puis ces tablettes, et puis qui font défiler le texte biblique. Voilà, peu importe comment il nous vient. Peut-être que vous aimez écouter l'écriture en mettant un CD dans votre voiture. C'est multi, l'écriture est multi-support. Mais l'important, c'est comment est-ce que je me laisse interpeller par cette parole et comment est-ce qu'elle peut descendre en nous. Beaucoup d'hommes ont donné beaucoup de conseils de lecture. Moïse a dit à Josué, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Au travers des prophètes, au travers des psaumes, au travers de Jésus, au travers des disciples, au travers des apôtres. On va faire un petit tour de textes bibliques qui nous parlent de notre rapport à l'écriture. On démarre avec Ézéchiel, au chapitre 2. Tous les grands hommes de Dieu ont fait des rencontres fortes avec la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 2. J'ai fait un choix, je vous ai choisi les textes qui ont marqué ma vie et qui sont liés à ce rapport à l'écriture. On lit les versets 1, 2 et puis après des versets 7 au chapitre 3 et verset 4. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi. Elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et au dehors. Des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit de « Fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Il me dit « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » Une expérience un petit peu forte d'un des grands prophètes d'Israël. J'aime beaucoup ce chapitre qui commence par « Debout, lève-toi et je te parlerai. » Première année de vie chrétienne, j'écoutais plutôt la parole couchée, allongée ou complètement en position défensive. Et je disais à Dieu, mais comment est-ce que je peux affiner, vivre une relation avec toi plus certaine, plus sécuritaire? J'avais tendance souvent à frapper du poing sur la table parce que j'étais soit impatient, soit j'avais du mal à comprendre. Et puis un jour, en lisant l'Écriture, voilà, Dieu dit, lève-toi, change d'attitude. Sois pas en position défensive. Ma parole est là aussi pour élever, soulever en toi, construire en toi la vie de résurrection. Change de langage aussi sur toi-même. Arrête de te sentir écrasé par la présence de Dieu. L'Écriture peut nous aider à déployer cette vie intérieure. Et c'est pour ça que cette parole m'a été adressée, vous a adressée ce matin. Lève-toi, debout. Dieu met en toi quelque chose de nouveau, qui a de la valeur, une nouvelle identité. Et c'est à cette nouvelle identité que tu veux parler. Mets le vieil homme, la vieille femme de côté. Laissons la parole de Dieu s'adresser à ce qui est nouveau en nous. C'est un appel à avoir faim de quelque chose d'autre que de la nourriture terrestre, aussi bonne soit-elle. Est-ce que je peux être invité dans la présence de Dieu à partager un autre type de repas spirituel, de parole de Dieu, qui nourrisse, qui sécurise, qui apaise mon être intérieur. On a besoin de tellement de secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et qui m'adresse une parole qui est vraie, qui est simple, qui est forte. Il est demandé au prophète de manger un rouleau qui est écrit partout. Je dis, mange, fais descendre à l'intérieur de toi ces paroles. Et il a dit que cette parole fut comme du, doux comme du miel. Alléluia. Est-ce que cette relation d'alliance que j'ai avec le Dieu vivant au travers de l'Écriture peut devenir dans ma vie quelque chose de doux? Tout l'hiver, moi je prends une cuillère de miel tous les matins. Le miel de Michel, des ruches, des abeilles qu'élève Michel. Tout le monde sait ce que c'est que le miel. La sœur de Catherine nous a offert un petit pot de... C'est du miel au caramel? Non, du miel au chocolat? Non, non plus. Aux noisettes? Ah, voilà. Du miel aux noisettes. Waouh, c'est super. Est-ce que l'Écriture peut être pour moi chaque matin comme du miel aux noisettes? C'est en tous les cas ce que Dieu voulait. Il y a un autre côté qui est plus difficile, parce qu'il y a aussi des choses difficiles dans la relation avec cette parole. Il y a aussi des plaintes, des gémissements, des souffrances. Un soir, au bout de quelques mois de conversion, le Seigneur s'est approché de moi et m'a dit, est-ce que tu es prêt à souffrir pour moi? Là, la réponse ne vient pas spontanément. On descend soi-même et puis on se dit, non. Est-ce que je peux répondre à une telle demande, à une telle invitation? Puis en même temps, elle est universelle. C'est une parole qui s'adresse à chacun. Tous les hommes de Dieu qui ont reçu des révélations, des paroles de Dieu fortes, ont reçu aussi des avertissements, des mises en garde, en disant, voilà, c'est aussi une parole qui peut être difficile déjà dans ta propre vie, par rapport au vieil homme, à ton passé. Comment est-ce que cette parole va secouer le bonhomme, la bonne femme? Comment est-ce qu'elle va amener à décanter, à déposer dans nos vies, à éliminer, purifier nos vies de ce qu'on n'a pas besoin? C'est une parole qui va aussi nous amener vers les autres, qui sera reçue ou pas, qui va nous amener dans des combats spirituels, sur des terrains peut-être difficiles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. C'est le verset 10 de ce même chapitre 3. Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Les éléphants, ils sont avantagés. Hein. Ils ont des grands pavillons, des grandes oreilles. Les systèmes d'écoute aujourd'hui dans le monde électronique, on les appelle des grandes oreilles. Tous les systèmes radars, etc. Est-ce que je développe des grandes oreilles pour écouter Dieu plus que le monde, plus que les médias? Je suis comme la plupart d'entre vous, hein, j'écoute pas mal les médias. Surtout en ce moment, c'est un peu western. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, je ne sais pas. En tous les cas, c'est... Mais est-ce qu'au milieu de la masse d'informations des médias, est-ce que l'écriture peut créer dans ma vie un sens, une ligne, des lignes d'inspiration qui soient plus fortes que les choses du monde? Être en capacité d'entendre, de recevoir une parole de libération, de consécration. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour moi? On prend le temps de réfléchir, on descend soi-même. Alors après, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de recevoir directement une parole comme ça, pas facile. Alors je dis toujours, sur le principe, oui Seigneur. Je réponds oui, puis après, il y a du travail pour étager la réponse et puis pour pouvoir la travailler et donner une réponse plus profonde, plus cohérente, en toute connaissance de cause. Après, je vous rassure, en 43 ans, la souffrance n'a pas été si... Voilà, c'est des choses qu'on vit, c'est des remises en question intérieures, c'est des combats dans lesquels on rentre, mais voilà, ça vaut le coup. C'est des souffrances passagères. Puis je dis par rapport à d'autres, voilà. Si quelqu'un n'a pas à se plaindre, c'est moi, je vais pas aller. C'est pas de ça dont je vais me plaindre. Pour donner une parole au monde, il faut d'abord la recevoir et la certifier dans le cœur. Aujourd'hui, il y a des organismes de certification pour tout. L'Église est aussi un lieu où je peux certifier la parole de Dieu dans mon cœur, la frotter, la comparer, la partager avec d'autres chrétiens et puis ainsi gagner de l'assurance. On lit dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, les versets 26 à 30. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce que je suis prêt à entendre, à recevoir une parole qui vient du ciel et qui me fait diminuer en moi-même? C'est pas facile de diminuer. Aujourd'hui, dans les médias, tous les hommes politiques veulent être séduire les masses, monter dans les sondages, et on voit que c'est une course. J'allais utiliser un mot, une course à l'échalote, mais on ne sait pas qui est l'échalote, mais est-ce que c'est nous? Pour pouvoir délivrer un message au monde, il faut que je le reçoive, que je le valide, que je le certifie. Un homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Il faut que je sois ferme, certain, dans ce que j'ai reçu. Et que j'applique cette parole. Il faut qu'il croisse, que je diminue. Pour Jean-Baptiste, je pense que c'était une souffrance. Il est mort en martyr. On l'a décapité. D'autres hommes, dans l'Écriture, Étienne, etc., on sait qu'un des frères de Jésus, le premier chrétien, ça avait un coût. Pour nous, aujourd'hui, le coût est minime. On a vu mercredi soir que beaucoup d'hommes et de femmes, en Érythrée, des hommes, des femmes, sont enfermés dans des caissons, des containers en fer, plein soleil, très peu d'eau, très peu de nourriture. Là aussi, donc, il faut mettre en équilibre nos souffrances avec celles d'autres dans le monde. On va prendre un autre texte dans l'Apocalypse. Là, comme ça, on aura été depuis de Deutéronome avec l'expérience de l'apôtre Jean. Dans l'Apocalypse au chapitre 10, on lit les 11 premiers versets. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle, ce qu'ont dit les sept tonnerres, ne l'écris pas. » L'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. » Pas facile d'être un prophète. Des expériences fortes. Là aussi, comme Ézéchiel, mais on est dans la Nouvelle Alliance, un homme reçoit une révélation très forte, très profonde, très puissante, au point que c'est pas facile pour lui. Et puis là aussi, on lui dit, bah, tu vois, ce petit livre, tu vas le prendre, tu vas l'avaler, tu vas le manger. Tu vas le laisser descendre dans tes entrailles. Et il y aura de l'amertume. Mais ce sera aussi comme du miel. On retrouve là les deux pôles, souffrance et gloire. Et souffrance peut-être d'abord. Un jour, nous serons dans la gloire, comme Jésus. Mais en attendant, il nous faut laisser parole de Dieu descendre jusque dans nos entrailles. Il nous a dit que Dieu a des entrailles de miséricorde. Souvent, nous, les Français, on s'arrête au cœur, à la tête, à l'intelligence. Mais comment est-ce que cette parole peut s'incarner, peut descendre, peut nourrir, pas seulement ma tête, mon cœur, mais nourrir aussi tout ce qui est moteur en moi. L'amertume, c'est des choses peut-être difficiles dans nos vies. Parfois un combat contre nous-mêmes. Avant d'aller dire aux autres ce qu'il faut faire, il faut déjà le pratiquer soi-même, être au clair soi-même sur quel est le chemin de Dieu, c'est de faire des choix. Certains de ces choix ne sont pas forcément faciles. Mais si on les fait, ils sont source de joie, de paix, peut-être comme du miel. Il y a des cuisines comme ça qui ont les deux pôles, sucré-salé, amertume et douceur, piquant. Chacun là peut voir dans sa propre vie, dans sa propre manière de cuisiner, quelles sont les images qui peuvent lui parler. Mais ça nous parle aussi d'un processus de transformation. Déjà dans nos vies, et chez nos interlocuteurs, chez ceux à qui on va parler de Dieu, ça parle aussi de persécution, de difficulté, de tentation, d'épreuve. Il nous a dit que si le Christ, si le Maître, a vécu telle chose, a marché vers la croix, les disciples font la même chose. Allez, j'ai encore le temps de prendre un texte et puis on poursuivra après. Un texte dans Josué. Ah, je vous ai choisi des grands textes sur ce rapport à l'écriture, Josué, chapitre 1. Allez, je vais vous lire les 9 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme j'ai dit à Moïse. » Verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On retrouve le même appel que pour Ézéchiel. Debout, lève-toi. Avance, mets-toi en marche. Prends ce livre avec toi, mets-toi en marche. Réfère-toi à cette loi de Moïse, à ce texte, tous les jours. Que ce soit ton obsession, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais ta raison d'être et de vivre, médite-le jour et nuit. Là aussi, c'est un défi. C'est un défi de faire reposer nos vies toujours sur une onction, sur une parole, sur une inspiration, sur une élévation de Dieu dans nos vies. Comment est-ce que l'Écriture peut être un appui, un soutien dans ma vie, au quotidien? Je parlais tout à l'heure de pain frais, de pain quotidien. Mais comment est-ce que ma relation avec cette parole peut être de cet ordre-là? C'est une exhortation forte, puissante. C'est aussi un choc frontal avec notre vieille nature, avec notre passé, pour nous dépasser nous-mêmes et laisser cette parole nous emmener vers ailleurs. Debout, lève-toi, passe le Jourdain. Sois un modèle. Et Dieu est assez énergique puisqu'il a dit « c'est un ordre ». Comment est-ce que je peux prendre l'exhortation à une lecture quotidienne de l'Écriture comme un ordre? Une époque, je n'aimais pas trop qu'on me donne des ordres. Puis un jour, j'étais chef, alors il fallait donner des ordres. On ne peut donner des ordres et être obéi que déjà si soi-même on sait à quel niveau hiérarchique on est. J'ai fait pas mal de formations dans ce domaine-là. Quelle est ma place dans une structure hiérarchique? Pour certains, c'est difficile. Quelle est ma place dans l'ordre hiérarchique divin? Est-ce que je suis sous l'Écriture? Ou est-ce que je suis en vis-à-vis, à égalité, à même hauteur? Ou est-ce que je suis au-dessus? Certains théologiens sont au-dessus. À une époque, j'ai cru que je pouvais être, sinon à égalité, tout du moins un peu au-dessus. Ça me coûtait cher. Comment est-ce que ma maison spirituelle peut être en sécurité? Upakuo, dans l'obéissance à la parole. C'est des paroles fortes qui ont été données à Josué. C'est un ordre. Fortifie-toi. Que l'instinct de vie, de survie que Dieu t'a donné soit fort en toi au niveau spirituel. Ça marche dans le monde terrestre, physique, devant un danger, ça marche aussi sur le plan spirituel. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Un bon moyen de le faire, c'est de le faire en compagnonnage, en accompagnement avec l'Écriture. Au-delà de la peur, au-delà des souffrances, au-delà de la persécution, au-delà des difficultés, quel est le prix de la consécration des disciples. Pour terminer l'histoire de Josué, puis on arrêtera là, on continuera ce thème d'autres fois. Je vais lire au chapitre 24, les versets 15 et 16. « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Où les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, où les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quels que soient les dieux de ce monde, je veux choisir le Christ Jésus. Moi et ma maison. Quand j'avais envie de fonder un foyer, dans mon cœur je disais, voilà, Seigneur, je veux que toute ma famille t'appartienne. Je ne sais pas encore comment on fait. Mais c'est, voilà, c'est ça que je veux. Voilà, gloire à Dieu, ça a assez bien fonctionné. Ma famille directe, tout le monde est dans la foi. Mais là aussi, c'est des choix profonds, exclusifs, entiers. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Seigneur, je veux te servir. Une dernière petite histoire avant d'arrêter. On était marqué au collège avec tous ces pasteurs venus d'Afrique qui avaient déjà une expérience de Dieu tellement extraordinaire. Certains avaient fondé des dizaines d'églises. Il y en a un qui était fils du roi, il était souvent super bien habillé avec des vêtements qui reflétaient l'or, très très joli, et il disait qu'une nuit il a eu une vision. Il avait dans la main, c'est comme dans les films, dans les bandes dessinées et dessins animés, un sac avec un nœud avec de l'argent dedans. Et puis dans l'autre main, il y avait une Bible. Et le Seigneur les a choisis. Soit tu reprends la royauté de ton père et puis tu t'installes comme chef dans la vie et puis tu développes un royaume terrestre. Soit tu choisis de me servir, de devenir pasteur avec l'Écriture. C'est des choix. Celui qui a reçu cette vision à l'époque est allé dans une mission et s'est formé pour Dieu. C'est tellement beau quand nos choix peuvent être clairs, fermes, définitifs. Mais c'est aussi, je pense, à cette condition-là que l'Écriture, voilà, devient quelque chose, devient une alliance de vie. On veut prier ensemble. Père Céleste, merci pour ces paroles adressées à tous ces hommes de Dieu des temps anciens. Merci de ta parole, cette parole qui s'adresse à nous ce matin. Merci de nous donner cet ordre, debout, lève-toi. Et merci de pouvoir chacun être en relation forte avec ce livre, avec ta parole. Merci parce qu'elle est vivante par l'esprit, comme ce repas que nous allons partager. Merci de ce pain quotidien, cette parole, cette manne quotidienne qui nourrit notre vie intérieure. Merci pour ta parole au-dedans. Merci de nous aider chacun à nous fortifier, à nous encourager. Amen.